Moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Licinius Auguste, réunis à Milan pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu celle sur laquelle repose le respect de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens, comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y a de divin au céleste séjour puisse être bienveillant et propice à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent sous notre autorité. Édit de Milan de 313.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Pour la première fois dans l'histoire de l'Empire romain, l'édit de 313 pris à Milan par Constantin et Licinius donnait une réalité légale au christianisme. Celui-ci devenait en effet une religio licita, c'est-à-dire une religion qui bénéficiait de la liberté du culte, ce qui était évidemment un changement fondamental dans le statut de cette religion dans le monde romain. On s'est longtemps interrogé sur la question de la conversion de Constantin. Certains y voyaient un simple argument d'opportunisme. Il aurait senti que le christianisme avait le vent en poupe, que la population ne cessait de devenir de plus en plus chrétienne, et il se serait donc converti au christianisme. Cet argument de l'opportunisme n'est pas satisfaisant, car au moment où l'empereur prend l'édit de Milan, combien d'habitants de l'Empire sont chrétiens ? Difficile de donner un pourcentage extrêmement précis, mais nombre de spécialistes estiment que l'on était aux alentours de 15% de la population qui était chrétienne, et surtout d'ailleurs en Orient et peu en Occident. Donc, l'opportunisme n'est peut-être pas à prendre uniquement en compte. On s'est interrogé aussi sur les transmissions familiales. On a parlé de son père, Constance Chlore, qui, d'après le témoignage d'un patriarche de Constantinople, Phocius, au IXe siècle, aurait eu une influence importante. Mais comme Constance Chlore semble plutôt être un adepte du Sol Invictus, c'est-à-dire du dieu soleil, il est difficile d'en faire un propagateur auprès de son père d'un christianisme. Alors il faut se retourner peut-être vers sa mère, Hélène, qui a pu effectivement infuser dans l'esprit de Constantin la foi chrétienne. Il faut s'interroger aussi sur quel type de christianisme se rattache Constantin. Dans le discours à l'Assemblée des Saints de 323, Constantin explique que certes, le Père et le Fils sont de même essence et sont consubstantiels, mais tout de même, ils ne sont pas tout à fait égaux. À vrai dire, Constantin raisonnait en empereur, et le Fils de l'empereur n'est pas égal à son Père. De même, le Fils de Dieu n'était pas égal donc à Dieu. De même, il ne fait pas d'allusion à l'Esprit-Saint. On a donc le sentiment d'avoir plutôt une espèce d'arianisme dans la pensée de Constantin. Ce qui est à noter, enfin, c'est que s'il adhère de plus en plus à la foi chrétienne, il ne se fait pas baptiser tout de suite. Il attendra quelques jours avant sa mort, le 22 mai 337, pour recevoir par l'évêque arien Eusèbe de Nicomédie, le baptême. Il faut dire qu'il estimait qu'après avoir fait éliminer son fils Crispus, sa femme Fausta, un de ses beaux-frères, et donc ayant dû faire de la politique, et une politique parfois répressive, il était difficile de vivre pleinement en chrétien. D'où sa volonté d'attendre les derniers jours avant sa mort pour recevoir le baptême. Il est vrai aussi que Constantin, même s'il est indéniablement de plus en plus proche du christianisme, laisse tout de même sa place au polythéisme, aux autres religions traditionnelles de l'Empire. C'est vrai qu'il prend des mesures en faveur du clergé chrétien. Par exemple, dès 313, le clergé est exempté des charges municipales. De même, il donne, en 321, la possibilité aux habitants de l'Empire de léguer des biens à l'Église. Et enfin, peut-être en 314, il décide que le dimanche sera le jour consacré à Dieu pour les chrétiens et donc au repos. Mais s'il affirme véritablement que le christianisme a toute sa place dans l'Empire, il fait attention à maintenir une réelle tolérance envers les cultes païens. Ainsi, il maintient son titre de grand pontife, qui est le titre traditionnel du chef de la religion à Rome. Il autorise toujours les aruspices publics, c'est-à-dire les sacrifices pour essayer de prévoir l'intention des dieux. Et enfin, il continue à maintenir le culte impérial, mais sans sacrifice d'animaux, ce qui modifie effectivement quelque peu la tradition. Ce qui fait que sous Constantin, si les chrétiens sont de plus en plus favorisés, il y a finalement un mélange dans l'Empire entre les divers cultes, puisque le polythéisme n'est pas interdit. D'autre part, Constantin a laissé aussi une importante œuvre de bâtisseur à Rome même. Il a fait construire dans les années 320-330 la première basilique Saint-Pierre au Vatican sur la tombe de Pierre, dont il reste effectivement que très peu de choses suite aux grands travaux du XVIe et du début du XVIIe siècle. Il a fait édifier la première basilique Saint-Paul, ainsi que la première basilique Saint-Jean de Latran, qui allait devenir la cathédrale de Rome. Aussi, à son décès, la situation du christianisme est indéniablement améliorée par rapport au début du IVe siècle, où se déroulait la grande persécution de Dioclétien. De plus, les successeurs de Constantin, sauf Julien, surnommé l'apostat par les chrétiens, ont indéniablement favorisé le christianisme, mais surtout, et c'est une chose différente par rapport à Constantin, ils ont également pris des mesures contre les cultes traditionnels. Ainsi, Constance II, entre 339 et 341, interdit ce qu'on appelle la ruspicine privée, c'est-à-dire la lecture des volontés divines dans le cadre familial, ainsi que les sacrifices privés sur les autels familiaux dans les demeures. En 354, les temples sont fermés, mais sont réouverts par Valentinien après 364. Sauf au Sénat, en 370, on interdit tous les sacrifices publics. Il faut donc imaginer qu'il n'y a plus de sacrifices devant les temples de la religion païenne. Enfin, l'empereur Théodose va couronner cet ensemble par le fait que, en 380, il proclame le christianisme religion officielle de l'Empire, et lui-même d'ailleurs est baptisé la même année. Ce qui veut dire qu'en faisant du christianisme la religion officielle de l'Empire, Théodose met fin aux subventions impériales qui allaient vers les cultes et les prêtres païens. Ainsi, il y a indéniablement un étranglement économique de la vieille religion polythéiste. Logique, évidemment, de tout cela, c'est qu'en 392, l'empereur interdit tout culte païen. Ainsi, à Carthage, on détruira un dernier temple en 416. De plus, cette même année, il est décidé que pour être désormais fonctionnaire impérial, il faudra impérativement être chrétien. Il y a bien également une volonté d'étrangler théologiquement, économiquement, politiquement, le vieux polythéisme. Mais ce qui peut aujourd'hui inquiéter l'observateur de 2019, c'est qu'il y a eu aussi une très forte législation anti-juive. Interdiction pour les juifs d'avoir des esclaves chrétiens, en 339. Répression du prosélytisme juif, en 352. Interdiction des mariages mixtes. Restriction de la liberté de culte juif en 393, avec en particulier l'interdiction de construire de nouvelles synagogues en 415. Il y a donc eu, de la part de l'Empire chrétien, à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle, s'apercevant sans doute que les Juifs n'allaient pas spontanément se convertir au christianisme, la volonté de brimer également le culte juif, comme il en avait été de même pour les cultes païens. Aussi, la christianisation de l'Empire tout au long du IVe siècle s'est faite à la fois par des élans missionnaires réels qui ont permis à des populations de découvrir la foi chrétienne, grâce à des grands pasteurs comme Ambroise de Milan ou Augustin d'Hippone, qui parmi les plus célèbres. Mais il ne faut pas négliger aussi le fait que le christianisme s'est progressivement imposé dans l'Empire par une politique finalement assez répressive concernant les autres cultes. Il n'en reste pas moins vrai que le IVe siècle a été un moment déterminant pour la propagation de la foi dans le Christ dans le monde romain.